Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En l'an 2000, l'atelier de création radiophonique allait promener ses micros à Barbès, près de la station Stalingrad. Au numéro 16 du boulevard de la Chapelle, le Béjaïa Club était l'un des derniers cafés de Barbès où se produisaient encore les artistes du rail traditionnel. Calé entre voies ferrées et métro aérien, ce bistrot aussi mythique que modeste était déjà l'un des derniers vestiges des temps révolus d'un quartier en pleine mutation. Un quartier qui, des années 50 à 80, résonnait de la richesse d'une production musicale foisonnante, au temps où des artistes maghrébins enregistraient chez Pathé Marconi et vendaient leurs disques par dizaines de milliers. En poussant la porte des derniers disquaires, en se frayant un chemin dans la foule des jours de marché, avec la musique pour fil conducteur, le passé de la goutte d'or ressurgit dans les témoignages de ceux qui en ont vécu les grandes heures, mais aussi l'époque des rafles et du couvre-feu. Atelier de création radiophonique, Barbès Stalingrad Ya Rai, un reportage au Béjaïa Club, à la rencontre des artistes Kamal Hamadi, Noura, Salah Sadawi, Sheikha Rabia, Mohamed Seba et Zulika Gelil, en compagnie de l'écrivain Marie Virol et au son des chansons de Shira Rabia.
A, C, R, atelier de création radiophonique.
Barbès, Stalingrad, Ya Rai, par Marie-Hélène Bernard.
Barbès.
C'est tellement changé, Barbès.
Moi, j'ai joué à Côte d'Or, à Barbès. 18 à Côte d'Or, à Barbès, j'ai joué là-bas.
Il est long, quand c'est le cas. Le quartier est long, ça c'est.
Avec Saïd Dadouche. Zulikha Gili et sa sœur Hajja. Houari et Mohamed Sba.
Ah, c'est Barbès, de l'autre côté, c'est la chapelle.
Kamal Hamadi. Salah Sadawi. Marie Virol, Bardad Mimouni, le Barrah du Béjaïa Club et Cheikh Rabia.
Barbès, Stalingrad, Ya Rai.
Bah là, ça fait plus de 10 ans que c'est devenu un bazar.
C'est parce que ça marchait plus ?
Parce que ça marche plus la musique. À l'époque, on vendait beaucoup de la cassette algérienne, marocaine.
Et les grands noms, c'était quoi ?
Bah, les grands noms, c'était Dahman, c'était Hayatin, Sliman Azem, c'était Dreyassa, c'était des Nora, des grands grands. Il y avait le rail, mais c'était le rail traditionnel.
Ouais.
C'est pas le rail d'aujourd'hui avec la boîte haïtienne.
C'était qui ? C'était Cheikh Haremiti ?
C'était Cheikh Haremiti, Cheikh Mamaché, Hamada, c'est des grands grands de l'époque. Mohamed Belkhiati. Et après, il y avait Rimiti, il y avait Cheikh Rabia, il y avait Blaoula Awari, Ahmed Wahbi, tout ça, c'est les gens du rail.
il est là, Kamel. Kamel Hamadi, ça c'est Nora.
Celle-là, c'est des photos
que... C'est Dahman Harachi.
Ah oui, avec un bandeau. Là, il joue du bandeau.
Oui, oui. Et là, c'est Salah Saadawi.
Et c'est quelle époque alors ça?
C'est dans les années 63, 64.
Et il y a aussi un... C'est un Kenoun, ça c'est...
Kenoun, Kenoun. Ouais.
Ouais.
C'est un Kenoun.
Ça, c'était avant les synthétiseurs et tout ça.
Ah oui, voilà. Ouais. Moi, j'aime pas tout ça. Les synthés, tout ça. Ça, c'est un autre chanteur qu'à lui.
Donc, Zouleira, là, on est dans votre magasin. Il est tout neuf, votre magasin. Vous avez toujours été là?
Non, mais on était juste à côté.
Toujours au boulevard de la Chapelle?
Oui, toujours. Ouais.
Ouais. Et quand ça a été rénové, vous avez repris ce...
Absolument. C'est plus grand, c'est plus... On est à l'aise, quoi.
Mais vous, vous avez... Ça fait longtemps que vous êtes là, à Barbès.
Ben, oui, effectivement. Bon... Depuis 64... C'était notre vie, quoi. C'était pas Barbès d'aujourd'hui. Déjà, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait une... C'est vrai que tous les week-ends, par exemple, tous les émigrés, ils venaient à Barbès pour faire leur achat, leur... Parce qu'ailleurs, on ne trouvait pas ce que... Point de vue viande, point de vue... lorsqu'ils faisaient des courses pour leur famille. Bon, maintenant, il y a les supermarchés. Avant, il n'y avait pas ça non plus, hein. Bien sûr, la clientèle, elle a changé. On vend beaucoup moins. Ça, c'est évident. Hein. Tous les vieux immigrés, là, ils sont rentrés chez eux, là. Non. Oh, si, il y en a... Oh, ans, si, ouais. Oh, non, bon, quelques-uns, les petits beurs, là. Non, mais non.
Quoique les petits beurs reviennent à la maison
voilà,
traditionnelle.
Feuilleter les 45 tours, les 33 tours, c'était comme des livres animés où on voyageait un petit peu, on écoutait la musique en même temps, on déchiffrait les pochettes. Régulièrement le samedi matin, on partait donc avec notre maman, avec le caddie, avec deux, trois frères et la maman, on allait donc faire les courses de la semaine. Il y avait donc un marchand de disques qui étalait des 45 tours, des 33 tours, c'était l'époque du vinyle. Sur Barbès, et c'était vraiment l'endroit aussi, il y avait une ambiance aussi autour des disquaires, il y avait les nouveautés, les disques arrivaient, ceux qu'on attendait, ceux qu'on commandait, qui venaient d'Algérie directement.
C'était le grand marché, Barbès, c'était la grande sortie. Maintenant, c'est Carrefour.
Avant, les gens venaient uniquement à Barbès, et qu'ils soient de Aubervilliers ou de n'importe quel bon lieu, le dimanche, il vient à Barbès pour rencontrer les gens de chez lui. Il y a les boucheries musulmanes où disent égorger tout ça, uniquement à Barbès. Maintenant, dans chaque coin de la banlieue, vous trouvez une boucherie, vous trouverez un supermarché, vous trouvez des gens qui habitent avec leur famille. Alors, ils ont leur parabole, ils voient l'Algérie, ils voient le Maroc, ils voient l'Égypte. Alors, ils viennent à Barbès pour ne rien faire. Alors, ils préfèrent s'en passer. Avant, les gens étaient habités les foyers, habités les hôtels. Alors le samedi dimanche, pour se revoir avec les gens du pays, du patelin, on se voit à Barbès et se rencontrer à Barbès, dans les cafés.
Il y avait des scopitones aussi dans les cafés arabes.
Oui, scopitones, on en a fait beaucoup, c'était vraiment bien. À l'époque, c'était dans les années 68 jusqu'à 78, une dizaine d'années. Ça a fait le bonheur de certains cafetiers, parce qu'on faisait des petits films de 4 minutes. On voyait tous les chanteurs célèbres de chez nous. C'était bon, ça a beaucoup marché.
Ça va.
Il y avait plus de public que maintenant, parce qu'avant, il y avait que des hommes seuls. Quand ils sortent, ils vont au café, et le chanteur, surtout des chansons un peu nostalgiques, qui parlaient du pays, qui parlaient de la séparation et tout ça, des enfants, et ça les fait pleurer en même temps, et c'est comme ça.
Madame.
Oui, j'arrive. Qu'est-ce que ça sera pour vous?
Pour moi, ce sera un café très léger, s'il vous
plaît. Et vous, comme d'habitude?
Ah oui, madame, moi toujours le monade.
Au fait, j'ai deux lettres à vous remettre et je crois que ça vient de chez vous.
Ah, merci beaucoup, madame. Bref, لا 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 نكاس راجع الأخبار بخام سيد اسم سريع فطيكوك مقل مقل لا نكمل كلا ما زال نعذرين
ما زال الفوق نتاعنا أبار سا تو va bien il nous manque le plaisir de te voir nous avons reçu le mandat si tu peux nous envoyer encore un peu car les gens disent que tu n'envoies pas de grands mandats لكي قال الشغل نيران كل شي قرز المندان تفيتس وما تزمر دغدر نوز شويت قدري من الغاشي قارند المندات تيمش تحي دغت شقار
Madame, madame, encore un rouge.
Voyons, monsieur, c'est la première fois que je vous vois dans cet état. Vous avez trop bu et je ne vous sers plus.
Non, madame. Aujourd'hui, je vais boire. Je vais boire jusqu'à ce que je vais dire au bourrico, comme le mouton. Tu ne sais pas pourquoi je cherche à boire. S'il reçoit de ma refouder, ma chide chérang. Abbodé ou d'arriser voir. Oh, yaglab le bhar yikawam zun de sahara. Aïnis d'af qui d'af yonkhar. نعم ما نسكر لما نورد فيم ضرام سي فري تا با كومبري يا مدام
À l'époque, les gens y venaient parce qu'il y avait beaucoup de bordel. Les gens y venaient pour la femme. Alors, comme il y avait tout le monde qui travaillait dehors, à Barbès, il y avait de la femme, il vient insinuer pour voir des femmes le week-end. Ça a mis du monde.
Et les bordels, ça s'est fermé quand?
Oh, bah, à peu près une vingtaine d'années, là.
Ça a fermé d'un coup?
Bah oui, ça a fermé d'un seul coup comme ça.
Là, vous savez ce que le
Tata a fait.
Là, vous savez.
Le monsieur, il a dit en 76 qu'ils ont fermé
72.
Les... 72 qu'ils ont fermé les bordels.
En bas, là.
Parce que je crois que lui, il était client. Il allait les voir avant.
Eh bien sûr, c'est normal, je suis tout seul.
Et maintenant, tu n'es pas tout seul?
Non, maintenant, je ne suis pas tout seul, mais je ne vais pas.
Ça, tu es trop vieux.
Ça y est. J'ai ma famille.
Tu as déposé le matériel?
Ça y est.
Bon, moi, je suis venu tous les jours, depuis 65. Alors, pour moi, ce n'est pas ni la femme, ni personne, c'est... Quand je suis venu d'Algérie, je suis venu à la rue de la Charbonnière. Alors, depuis là, je suis là tous les jours. Et je ne peux pas m'en passer d'une semaine de venir par Barbès.
Ah ouais?
Impossible. Pour moi, c'est l'année d'Algérie, je connais tout le monde. Depuis 65, je suis là. Et maintenant, ça fait 35 ans.
Elle est à Paris. C'est la douche.
C'est pire comme avant. Maintenant, ça y est, c'est des bâtiments neufs. Ils ont tout détruit, ils ont fait tout neuf.
Mais le travail, ça manquait.
Mais le travail, ce n'est plus comme avant Barbès. Parce que quand on dit Barbès.
C'est
parce que là, il y a un marché le samedi, mercredi. Soi-disant, c'est le meilleur marché de Paris, mais c'est faux. En plus, les jeunes, ils viennent de loin. Et chaque fois, ils viennent avec leur voiture, ils ont des PV, ils ne peuvent pas se garer, on embarque leur voiture, il ne faut rien. C'est que de plus en plus, c'est moins de monde.
Allons-y, la qualité, là. On n'a produit que du bon ce matin. Allons-y, la qualité, là. On n'a pas la fille. Voilà, voilà,
voilà,
si elle en profite.
La banana, la banana.
Allô.
La banana, la banana.
Allons-y,
allons-y,
on liquide, là, on liquide, là, chante.
Oh, on liquide la qualité. Allah, 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 j'ai plein la banane, maman. Allez, celle-là, celle-là, oh.
Oh, qui le dit franc, qui le dit franc. Mettez dans mon camion, il y a de l'amour.
Maintenant, on est en plein la route de la Goutte d'Or, là.
Ouais.
Parce que quand on dit la Goutte d'Or, ben, c'est ça la route de la Goutte d'Or. En face, c'est un restaurant qui vient d'ouvrir parce que c'est nouveau. Et là, même pas travaillé 3 mois, le pauvre. Elle est fermée parce que ça ne marche pas. Il n'y a pas de clients. Là, on a dit coiffeur à 43, vous voyez. Ils faisaient les prêts le plus moins cher possible pour travailler, ils n'arrivaient pas à s'en sortir.
Les travaux, ça a quand même...
Ah, ils ont cassé beaucoup de commerçants. On peut dire qu'ils l'ont fait exprès. Là, par exemple, Marwa Hamo. Louis, c'est un ancien coiffeur Hamo, qui a plus de 20 ans, qui est toujours ici à Barbès. C'est pas ça qu'on se connaissait tous.
Le premier disquaire, c'est Madame Sauvia. C'est au boulevard de la Chapelle. C'est une dame qui a beaucoup aidé les artistes. Parce qu'elle elle était la première à faire du disque, comme ils disent eux, disque arabe. À Madame Sauvia se faisait venir les disques d'Orient, de Fares Attrache, de Smahan, de Mkultoum et tout. Et puis, les chanteurs qui étaient chez nous à Paris, rares ceux qu'ils ont enregistrés. Madame Sauvia, chaque fois qu'elle avait un petit nom, on lui demande, et puis elle cherchait le chanteur. Dès qu'elle trouve le chanteur, elle le donne à la maison, à Paté Marconi ou à Philips. Elle était unique, et puis ça travaillait très bien pour elle. Et non seulement elle faisait des disques, mais elle vendait un peu de tout. Elle faisait même de l'édition. Elle a édité des petits livres des chanteurs. Elle était vraiment utile. Elle a fait beaucoup de choses pour la musique de chez nous. Une fois, il y avait un chanteur qui est devenu très célèbre. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs. Slimane Azem, il avait un café, il jouait avec son bonjour, mais il ne pensait pas devenir chanteur. Il chantait, il plaisait aux gens, mais il ne sait pas, il ne dit pas, je suis artiste là, il y a des clients, allez Azem, chante-nous, il chante une chanson. Et puis la chanson est demandée à Mohamed. Un jour, Azem, pour acheter des cordes pour son bonjour, il vient voir Madame Sauvia. Il dit, Madame, je voudrais des cordes pour bonjour, il lui donne, oui. Il dit, vous êtes musicien? Il dit, non, je joue de la musique. Ah, vous jouez de la musique, vous connaissez le musicien? Il dit, oui. Il dit, est-ce que vous connaissez Slimane Azem? Il dit oui. Et vous pouvez me le présenter? Il dit oui. Quand est-ce que vous voulez venir? Il dit non, il est devant vous, c'est moi. Après, il dit, alors pourquoi vous enregistrez? C'est vous qui chantez Mohamed? Il dit oui. Alors pourquoi vous l'enregistrez pas? Il dit non, moi je ne suis pas chanteur. Je peux pas faire des disques, c'est pas mon métier. Il dit, non, faites-moi plaisir, vous avez d'autres chansons? Il dit, oui, j'en ai 3 ou 4. Alors, elle appelle M. Hachlef, qui est directeur de Paty Marconi, elle le met en contact avec Sylvain Azem, il a enregistré ses quatre disques, et ça a fait des grands succès.
Et la grande maison où on enregistrait, c'était quand même Paty Marconi?
Oui, il y avait Paty Marconi à l'époque, qui a fait beaucoup. Il y avait Philips, il y avait après Odeon, il y avait Barclay, il y avait Pacifique, il y avait beaucoup de maisons. Mais la plus grande, c'était Paty Marconi. Justement, le monsieur dont je vous parle, monsieur Sylvain Azem et Noura, c'est les deux chanteurs arabes qui ont eu des disques, vraiment des disques d'or. C'est en 1970, Paty Marconi a décerné 2 disques d'or pour Noura et Sylvain Azem.
هذا وحشو زاد شقا
chanteur faisait un enregistrement, il faisait appel à tout le monde, c'était la même famille. Vous trouvez le même orchestre qui joue avec des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, même la chanson kabyle, c'était les mêmes musiciens, c'était des grands musiciens. Les gens travaillaient, ils sont achetés, ils sont écoutés que par des gens de chez nous, ou par quelques juifs, parce que les juifs écoutaient la musique orientale. Et il y avait beaucoup de chanteurs juifs qui chantaient, mais ils chantaient la musique arabe, la chanson arabe. Les artistes se produisent dans les salles. Mais avant, c'était très rare. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était très rare. Et puis les gens ne louaient pas des salles. Ça les derrière, il y avait du racisme. Et puis surtout après, il est venu la guerre. Presque tous les artistes qui étaient à Paris, algériens, je parle, ils ont tous fait de la prison. C'était où on leur reprochait. D'abord, ils travaillaient tous avec les FLN. Ils ne pouvaient pas. Ils ont presque tous été arrêtés, enfin relâchés ou gardés jusqu'à l'indépendance. Quand il y avait la guerre, c'était vraiment infernal. C'était d'abord, ils étaient surveillés, ils étaient écoutés. Un certain temps, le FLN a interdit aux chanteurs de chanter dans les cafés parce que ça ramassait les gens. Et puis la police vient ramasser tout le monde, les amener à Vincennes. C'était très difficile. Et ils chantaient en cachette. Oh, les arrestations, il y en avait. C'était vraiment pas gai à l'époque, mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement.
Des fois, ils nous emmenaient avec nos instruments au commissariat de police. Il y avait le couvre-feu aussi, on ne pouvait pas jouer. On jouait que la journée du samedi et dimanche, ici, ce boulevard même, la boulevard de la Chapelle. On jouait le café dans l'après-midi.
Seulement.
Seulement.
C'était à quelle heure le couvre-feu?
Le couvre-feu était, je crois, si je me rappelle bien, 9h. 21h, comme ça, oui. On ne pouvait même pas aller au cinéma la nuit. Si on allait au cinéma la nuit, en revenant, on est embarqué par la police et on passait la nuit dans un camp de la Villette. Après, c'était le camp de Vincennes. Il y avait plusieurs camps. Il y avait des gens qui ont été, pendant 15 jours, deux mois dans des camps à Vincennes. Moi, j'ai passé 15 jours dans le stade de basket de Japy, ici dans le 19e.
Et c'était parce qu'il y avait une descente de police dans un café et...
Oui, oui, on marchait dans la rue, on nous appelait, montait dans le panier à salade. On montait, ils nous emmenaient directement au commissariat. Du commissariat, on allait vers le centre de tri, comme ça. De là, d'autres partaient en Algérie, d'autres partaient en prison, d'autres sont libérés. Moi, la plus grosse peine que j'ai passée, c'était 15 jours. Mm-hmm. Avec la même chemise, le même pantalon, ni savon, ni... Ouais.
لله يا بابور رجع غربتنا لله يا بابور رجع غربتنا في بلدان الناس بينا ضاق الحال احنا غربة ولا من يسال علينا غربتنا نداوم محنتنا بالكاس اتوحشنا حبايبنا ومالينا فاتوا السنين واحنا في بلدان الناس يا ناس
Les années ont passé et nous sommes en exil. Nous sommes étrangers et le bateau du retour nous boude. Nous disons que tout va pour le mieux. Le temps est dur et ne nous épargne pas à croire que le bien a déserté cette terre. Beaucoup parmi nous sont en prison.
Salah Sadawi.
Quand j'étais jeune, je jouais de la derbouka. Maintenant, je joue du luth, l'oud.
C'est difficile, l'oud.
Quand on aime, rien n'est difficile quand on a de la passion. Il n'y avait pas d'école pour apprendre. Mais travailler avec un maître, lui demander qu'est-ce que c'est que ça, et travailler avec d'autres maîtres aussi, leur demander qu'est-ce que c'est que ça, tout le temps à demander qu'est-ce que c'est que ça, qui est ce mode Bayati, ce mode Hijaz, ce mode dans le Shabi, Sihli, Zidane, Maya, tout ça. Il faut toujours demander, toujours à l'oreille, ouais. Toujours l'oreille, oui.
Et la mémoire.
L'oreille et la mémoire, oui.
Kamel Hamadi.
Chez nous, l'art, c'est tabou. C'est vraiment, il fallait pas y toucher. C'est quelque chose qu'il fallait pas vraiment infréquentable. Quand j'étais à l'école, on nous donnait des fables de La Fontaine. Alors, les fables de La Fontaine, je les traduisais en kabyle. Alors, de temps en temps, le maître, il me trouvait en train d'écrire. Je cachais la lettre. Il me dit, donne-moi ce que tu écris. Et puis, les garçons se mettaient à rire. Il me dit, c'est là, ils sont en train d'écrire des poèmes. Alors, le maître d'école m'appelait le poète. Moi, je ne savais même pas ce que c'est qu'un poète. D'abord, on a même un poste chinois à la montagne. On n'a pas le droit d'écouter en famille une chanson, une pièce de théâtre. On n'allume pas de poste en famille. Enfin, pas maintenant. Il y a 50 ans, cela. J'ai aimé le luth, mais comme le luth à l'époque à Alger était très cher, je ne pouvais pas me permettre, mais je me suis acheté d'abord une petite mandoline. Avec la petite mandoline, j'ai acheté une guitare. Et puis, j'ai pu acheter un petit luth d'occasion. Et j'ai pris un professeur, enfin, c'était un grand compositeur, un grand musicien qui s'appelait Missoum. Alors, j'allais chez lui, mais comme il avait trop de travail, il était tout le temps occupé. Alors, il me dit, tiens, tu viens à 4h, de 4h à 5h. J'arrive à 4h, je trouve qu'il avait affaire avec quelqu'un. Et je reste jusqu'à 5h. Il me dit, mon fils, maintenant, tu peux partir. Voilà, tu as écouté, tu as appris ta leçon. Je suis venu le 20 octobre 1950, c'était pour enregistrer chez Tepaz. Je suis venu avec ma femme, qui était ma fiancée à l'époque. On est venu, elle était chez Nora, la grande chanteuse, et on a enregistré sur la même maison. Et tous les artistes que j'admirais étaient à Paris. Pour Missoum, pour Medjam Moussi, il y avait Chef Khaddam à l'époque, Slimane Azem, Hasnaoui, tous les grands étaient à Paris. Alors, en arrivant à Paris, ma femme, qui était comédienne, elle continuait à prendre des cours de comédie. Et moi, je prenais mes cours de musique et j'écrivais pour la radio et on vivait. Et c'est là qu'est née ma première fille.
Quand ça a commencé les événements en Algérie, alors je suis venu ici en France pour travailler. Alors je suis resté au chômage, j'ai commencé à travailler à Bercy. Trier les bouteilles de vitel, de vin, et c'est de suite. Et le samedi, j'allais écouter mon maître de la chanson, Amraoui Missoum. Et je commençais à jouer avec lui de la derbouka. Du tard au début, après le dreb qui est parti, il nous a laissé en panne, j'ai pris la derbouka. Et après, la chanson est venue. J'ai appris avec lui.
Et c'était en quelle année?
C'était en 55.
Ah oui.
Ouais, ouais.
Et ils jouaient dans des cafés, comment ça se passait?
Oui, on jouait dans des cafés, des théâtres, mais les théâtres aussi, on a essayé de faire des galas. Le gala a été annulé, la police ne nous a pas laissé jouer. Alors on a joué dans les cafés.
Et les cafés, eux, ils n'étaient pas surveillés?
Non. Les cafés, il y a beaucoup de cafés, on ne peut pas surveiller tous les cafés de Paris à ce moment-là. Moi, j'ai commencé à chanter des chansons patriotiques parce qu'on éduquait les gens dans les cafés. On chantait et on était. Quand on ramassait les gens donnaient des sous. Quand on a fini la soirée, on partage moitié pour le FLN et moitié pour nous, les musiciens. Au cessez-le-feu, je jouais dans un gala. C'est-à-dire, faisait la fête partout, dans tout Paris, parce que les condamnés à mort sortaient de prison, les femmes emprisonnées sortaient de prison, ils étaient tous ici. Tous ici en France. Les condamnés à mort, tout ça, venaient d'Algérie, ici. Et au cessez-le-feu, les négociations, ils commençaient à les lâcher. Alors nous, on était là pour les amuser, leur faire de...
C'était la fête, quoi.
C'était la fête, on faisait de la fête. Et il y avait un éditeur qui m'avait remarqué et il m'a demandé à lui enregistrer. C'était la Voix du Globe, le directeur de la Voix du Globe, ce monsieur-là, dans la photo, Haj Suleiman. Alors j'ai chanté, ça a fait un boom de... Ils vendaient les disques comme ça, blancs, sans étiquette, sans ma photo, sans rien. Et il a fait fortune grâce à ça, d'ailleurs. Il ne m'a pas payé un sou de droit d'auteur.
Et les chansons, elles parlaient de quoi?
De la guerre.
De la guerre.
Ce qui s'est passé dans la guerre. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est un monsieur qui est mort. Il s'appelait M. Larbi. C'était un simple cuisinier. Et moi, j'avais écrit des chansons d'amour. J'avais écrit, je ne sais pas les montrer. Je les ai montrées à un compositeur. Je lui dis, voilà, j'ai écrit cette chanson, je lui ai montré qu'une seule. Il m'a dit, qui c'est ce poète marocain qui t'a donné cette chanson? Il n'a pas cru que c'était moi. Alors, quand j'avais plus de chansons, les autres ne me donnaient pas de chansons, et j'ai commencé à chanter les miennes. Et depuis, j'écris, je chante, j'écris pour d'autres. Paroles et musique, oui. Et des fois, ça vient les paroles, la musique, d'un seul coup. Et ça, c'est ça le grand succès. Mais ça vient rarement.
Kamala m'a dit, c'est un pseudonyme. J'ai pris ce nom-là pour que mes parents, les gens de mon village, n'ont rien à voir. Mais mes parents, les gens qui me connaissaient, ne savaient pas que c'était moi, pendant des années. J'ai été renié par toute ma famille. Quand ils ont su, mon père, qui était très brave, il est venu me supplier. J'ai dit non. Il me dit, alors ne parle plus. Je dis, je ne parle plus. Mes oncles, toute ma famille, ce n'est qu'après qu'ils sont devenus fiers de moi. Ils disent que madame m'a dit, c'est mon fils, c'est mon frère. Ça me fait plaisir. Tout ce que je rêvais, il y a même des chanteurs que j'aimais dans ma jeunesse, je voulais même les approcher comme ça. Et est arrivé le temps où ils ont chanté mes chansons. Ça, les 3 ou 4 chanteurs que j'aimais dans ma jeunesse, ils ont chanté mes chansons. C'était ma fierté. Je reparle de temps en temps avec ma femme, je dis, toi, quand j'étais gamin, quand je voyais Abdelrahman Aziz, quand je voyais Jemoussi, pour moi, c'est des gens qu'on ne peut pas approcher. Ils sont arrivés à chanter mes chansons, j'étais très content.
Si je fais le compte, j'ai vécu de ma musique. Parce que j'ai eu des cafés, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais le bon Dieu peut-être n'a pas voulu parce que je vendais l'alcool qui est interdit pour les musulmans. Hein. Je n'ai pas gardé d'argent. Ça s'envolait par-ci, par-là. Et l'argent de la musique, il est solide. C'est pas liquide.
C'est du bon argent, oui.
C'est de bon argent qui dure. Parce que moi, je travaille avec des maîtres qui me disaient l'art est noble. L'art est noble. Alors, l'argent de l'art, il dure longtemps. Alors, je suis toujours à Paris. Je vends des cassettes. J'élève mes enfants. Ma principale chose dont je suis fier, c'est d'avoir élevé mes enfants.
Et vos enfants, il y en a qui font de la musique, il y en a qui chantent?
Non. Non. Il y en a qui aiment le football et d'autres qui étudient encore. Moi, j'aurais préféré qu'on soit en Algérie tous ensemble. Mais que le destin a voulu comme ça. Pour les enfants, je ne crois pas qu'ils vont vivre là-bas aussi. Une fois qu'ils sont là. En tous les cas, je remercie Dieu. Ils sont ni délinquants, ni. Ils travaillent bien à l'école, ils sont sportifs. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Je peux faire plus.
Ouais.
لا مبعد
les frères Sba.
Nos parents, en fait, ils nous ont bien transmis en fait la musique dès le départ. En fait, notre mère nous a appris toute la chaîne en fait de fabrication du darbouka ou du bender ou de la ksba, donc le bambou avec les trous, tac. Prendre un petit peu, je me souviens...
La peau de mouton aussi.
La peau de mouton, oui, oui, enlever la laine, tanner la peau, après la mouiller, avec, et la coller ensuite sur la darbouka avec, en terre cuite. Maintenant, elles sont en fonte d'aluminium. Et donc, et coller la peau dessus avec du jaune d'œuf et de la farine. Et avec le fil aussi sur les bender, on mettait les fils avec les perles et puis on mettait plus ou moins de perles pour avoir une, plus ou moins de vibrations au niveau du son. Et puis il y avait le côté, on chauffait quoi, les bender, on les chauffait avant de jouer avec pour que la peau ait une certaine tension. Donc il y avait tout ça et puis il y avait aussi beaucoup la voix, hein, le chant, les chants chantés. Ça c'était quelque chose qui était... Ma mère chantait tout le temps, 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 tout le temps en train de chanter. C'est dingue. Et je me souviens aussi des pochettes de disques, parce que les pochettes de disques, il y avait toujours des femmes, alors des super nanas.
Des blondes. Des...
Genre, ouais, des... Et en fait, qu'il n'y avait pas grand-chose d'oriental, finalement.
Et c'est vrai que souvent, moi, j'étais choqué par ces blondes pulpeuses aux yeux bleus où on ne comprenait pas parce que c'était chanté en arabe et en même temps, la pochette représentait une suédoise ou je ne sais pas quoi. Enfin, rien à voir avec une oranaise ou une fille de Blida ou n'importe où d'Algérie. Mais il y avait aussi le contenu des textes où il y avait des disques chez nous avec des textes très, très provocateurs. Il y avait une chanson qui s'appelait Ralia le mini-jupe. C'était le Ralia, c'est un prénom de fille. Ralia et sa mini-jupe. Donc c'était une fille qui mettait sa mini-jupe pour partir danser le soir, mais une mini-jupe très courte. C'était l'époque des années 60-70. Et cette chanson-là était assez provocatrice, puisque c'était une fille qui partait en soirée pour aller s'amuser, s'éclater, pour aller gambader, entre guillemets. Et c'est une chanson qu'il ne fallait pas qu'on chante à la maison. On pouvait l'écouter, mais il ne fallait pas rechanter les textes parce que... Je me souviens, une fois, on avait reçu des gens à la maison, des gens de la famille, et puis on avait commencé à chanter le Ralia le mini-jupe. Et notre mère nous avait jeté un regard à dire « Mais qu'est-ce que vous chantez? Mais il ne faut pas chanter ça. » Mais maman, mais tu n'as pas souvent cette chanson. Oui, mais il ne faut pas chanter les textes, parce que c'est des textes assez provoques, quoi. Et y avait déjà, à l'époque, des chansons qui parlaient de l'amour, de l'alcool, de tout ce qui peut être... Un petit peu les plaisirs, la vie quotidienne et les désirs de...
La vie quotidienne, bien entendu, des immigrés, donc nos parents qui sont venus ici, qui étaient sans leurs femmes, sans leurs enfants, sans leur famille, et qui habitaient à 10, 15 dans une chambre, et qui vivaient comme ça. Donc c'était vraiment une vie vraiment d'ouvrier. De célibataire et d'ouvrier, donc c'était... Il y avait des réunions familiales, il y avait toujours une kasba, je me rappelle toujours de oncle Mekke, hein, l'Aïe Rahmon, hein, qui paie à son âme, qui jouait de la kasba, quoi. Donc, la kasba, je me souviens même de l'accordéon.
Je crois que la kasba, enfin de ce qu'on a pu nous raconter, c'était l'instrument de prédilection du berger. Chaque berger de ce nom, je crois qu'un berger sans kasba n'était pas un berger. Et comme nos oncles et notre propre père a été berger puisqu'ils habitaient en campagne, ça je trouve que c'est une belle histoire. Moi j'ai toujours eu ce cliché de mon père ou de mon oncle assis sur une pierre près d'un arbre à l'ombre en train de garder ses moutons, quoi. Ça je trouve ça beau. Et les femmes donc par contre, elles c'était plus dans les cuisines, tout en travaillant, tout en préparant le repas du soir ou etc. avec des chants, des voix, avec un bendel à proximité toujours et tout de suite d'animer quelque chose dès qu'il se passait un événement, une fête, une joie, une naissance, un mariage, tout de suite on animait ça tout de suite avec une percu, hop, et on tapait des mains et on chantait, on mettait une ambiance pendant jusqu'à plus soif, quoi. Et ça, je trouve que ce côté festif il était très fréquent chez nous, qu'on retrouve de moins en moins parce que maintenant il y a des chaînes stéréo, il y a la radio, il y a tout un tas de supports qui permettent d'écouter de la musique plus facilement. Avant, la musique on l'écoutait pas, on la faisait. Nous, on a eu cette chance de nos parents qui nous ont transmis ça et on l'utilise du fait qu'on soit musicien, on continue à perpétuer cette tradition à travers la musique et les instruments traditionnels. Mais je trouve que maintenant, les musiciens, enfin, s'ils n'ont pas d'électricité pour jouer, tiens, bah, la preuve, on a eu un très bel exemple ce week-end, on a fait un concert, on a eu une panne d'électricité sur scène, en plein concert. Bon, ben, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de musiciens qui se seraient arrêtés de jouer et qui auraient attendu qu'on répare la panne. Ben, nous, ce qu'on a fait, on a pris des percussions et pendant 20 minutes, on a joué des percussions, des morceaux acoustiques. Et donc, en fait, on n'a pas arrêté le concert. On a continué à jouer uniquement avec des percussions.
Qui a toujours existé.
Il y en a plusieurs de toute façon. Hein.
Il y en a que deux.
Il y en a un là-bas plus loin.
Ouais, il y en a plus loin. Là. Et là, c'est un magasin. C'est un magasin tissu maintenant. C'est un magasin tissu. Maintenant, on vend des cartes de téléphone pour l'étranger.
Ouais. Algérie, 70 minutes.
L'Algérie, le Maroc, 70 minutes. Il y a le monde entier qui est là.
Avant, les gens qui chantaient ici, qui faisaient des disques, qui s'adressaient uniquement aux gens de chez nous. Tandis que maintenant, il y a un mélange, il y a quand même des gens de chez nous qui sont français, qui parlent presque pas arabe. Alors, et puis, il y a des chanteurs, il y a des musiciens qui ont apporté une autre couleur, qui ont essayé de moderniser, de faire une couleur recherchée par les jeunes maintenant. Avant, c'était la chanson régionale, et puis à partir des années 50, 60, il y avait un mélange. Les chanteurs chantaient. Maintenant, la chanson est algérienne, qu'elle soit de ouest, d'est, ouest, nord ou sud, c'est un mélange. C'est comme la chanson moderne maintenant ici. C'est comme, par exemple, prenez dans les années 73, c'était, il y avait la chanson kabyle, il y avait Louidi, Rababa Inouvel, Jamel Allam, Djurjuras, ils étaient à la mode parce qu'ils étaient médiatisés par les télés, c'était beau. Après, on a fait beaucoup de publicité sur le rail, et puis les maisons de disques s'intéressaient, c'est quoi le rail, ils ont pris des chanteurs, ils les poussaient à la télévision, matin, soir, on les voit, c'est tout. C'est des modes, mais on ne sait pas si le rail va rester. D'abord, ceux qui font le rail maintenant, ils ne font pas du rail. Ils disent des chanteurs de rail, mais ils font de la musique occidentale, du n'importe quoi.
C'est vrai que le rail, qui était à l'origine et à la base une musique qui ne sortait pas d'Oran, qui n'était pas écoutée même pas à Alger, qui ne passait pas sur les ondes, finalement, elle est écoutée dans le monde entier. C'est quand même extraordinaire.
Nous, quand on a commencé, eh bien, le seul rail qu'on écoutait à l'époque, c'était Rainarail, je me souviens, c'était à RFI. Et c'est un son qui nous a vraiment touchés. C'est vraiment, c'était un groupe qui amenait quelque chose vraiment d'original. Et c'est de là qu'est né aussi le groupe Seba, c'est-à-dire le choix de dire, puisque au départ, on n'avait pas du tout pris la direction du rail. Hein, donc la musique qu'on fait maintenant, c'était une autre direction. Et puis en fait, comme il y a eu Ahmed qui a fait l'armée, c'est le seul à avoir fait l'armée au bled. Et donc 2 ans après, il nous est revenu
avec du rail plein la tête, plein de cassettes et tout. Et puis, et c'est vraiment, on peut dire, c'est grâce à lui quand même qu'on a eu cet apport. Parce que lui, il était là-bas pendant 2 ans, il nous a ramené voilà, tous ses sons, toutes ses musiques. Et c'est là où on a dit, tiens, on va chanter en arabe, on va voir ce que ça donne, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis à l'époque, je crois que si on n'avait pas chanté en arabe, on aurait perdu la langue. J'ai un certain plaisir quand je vois les mamans ou les papas venir nous voir et qui ont compris, qui comprennent bien le message, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque part important. D'autant plus quand des jeunes viennent nous voir et nous disent « Oh, mais vous parlez bien l'arabe parce que ils l'ont perdu quelque part. » Et c'est vrai qu'on essaye même sur un morceau donc qui s'appelle « Kayende », où justement on chante un arabe mais très 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 simple de façon à ce que justement les jeunes s'y retrouvent, quoi, comprennent.
Vous savez pourquoi ils appellent rail? Parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de. C'est l'improvisation. Ils ont commencé à appeler ça rail, c'était dans les années 40. Il y avait deux femmes qui chantaient. C'était Fatma Al-Khadim et Zahra Al-Rizaniya. Ils chantaient de l'orané, de la poésie. Ça a fait beaucoup de succès. Alors, une maison est venue en Algérie et dit, moi, je voudrais des concurrentes à Fatma Al-Rizaniya. Ils disent, il n'y en a pas, il y a une seule femme qui est là. On dit qu'elle chante bien, c'est une femme un peu isolée. Ils ont été voir la femme, ils disent, pas que vous chantez bien. Elle dit, oui, vous allez nous faire des disques. Ils disent, non, moi, je ne peux pas. Ils disent, non, mais tu nous fais quelques disques. Alors elle s'est mise à chanter. Elle prenait des thèmes comme ça. Elle disait un mot. Et puis, là où elle vide, elle dit Yaraï, Yaraï. Pendant que ça tournait, elle trouvait un mot. Et des petits mots comme ça. Et puis, revient toujours le même refrain. Salamanou Badel Hali. Et puis, quand il s'est vide, elle dit Yaraï. Dans tous les disques qu'elle avait fait, elle a fait une dizaine de disques. Et quand ils ont envoyé ça en Algérie, tout ça, ça a eu un très grand succès. Et puis, les chanteurs et les poètes de l'époque, ils disent, mais c'est quoi ça c'est... Alors, dans chaque mot de Yaraï, Yaraï, ils disent, c'est du Raï. Yaraïek, Yaraïek. Alors, toutes les chanteuses qui l'ont imité, y compris Rimiti qui est venue après, alors, ils faisaient comme elle. Elle n'a pas besoin de texte, elle prenait un thème, elle chantait dessus, et puis, elle répétait les mêmes mots d'improvisation. C'est pour ça qu'on appelle le Raï, ça veut dire l'improvisation. Au Maroc, ils disent l'Aïta.
Autant les femmes ont, marqué la chanson Raï tout au long de son développement. Et autant en Algérie même, elles ont une place très très importante, autant dans le rail, je dirais, du showbiz international, elles sont extrêmement effacées, pour ne pas dire absentes. Des femmes comme Zahouania, ou Rabea, ou Jenia ont bien essayé de dépasser les circuits habituels qu'on pourrait qualifier de barbétiens, hein, c'est-à-dire les circuits, au fond, de producteurs algériens, de petites boîtes, avec des moyens limités et donc du coup des enregistrements de qualité médiocre
et puis tourner vers un public
communautaire. Et pour l'instant, elles n'ont pas réussi en effet à percer. Elles ont pourtant ramé dans un milieu très difficile en Algérie et au fond, moi, la question que je me pose, est-ce que ce que n'a pas pu faire toute la tradition patriarcale du Maghreb, est-ce qu'au fond, les majeures compagnies et le règne de l'argent n'y arrive pas mieux, quoi, c'est-à-dire faire taire les femmes d'une certaine façon.
Certaines femmes qui chantaient à l'époque, c'est des femmes carrément rejetées par leur famille, qui sont devenues des femmes très célèbres aujourd'hui et très, très aimées. Mais à l'époque, elles étaient carrément rejetées de leur famille.
Et il y avait des femmes aussi qui chantaient dans les cafés déjà?
Oui, à l'époque. D'abord, avant, il y avait Bahia Farah, qui est devenue une grande chanteuse. Il y avait Fatma Zohra, après plus tard, il y avait Hanifa qui est venue. Et il y avait des chanteuses juives comme Louise Tounsia, comme eux, c'était normal. C'est-à-dire, une chanteuse juive, elle pouvait chanter, elle n'a pas peur de sa famille, elle n'a pas peur de. Tandis que les filles chez nous, c'est un peu serré à l'époque. Même chez nous, en Algérie, même en Égypte, les premières femmes qui ont fait du cinéma, c'était des juives. Parce que leurs parents trouvent ça normal, c'est de l'art.
Les cafés, ils étaient où, les cafés où
les... Bah, les cafés sont ici, c'est là au Chartres, il y avait là au Lago d'Or. Là-bas, il y avait un café, là où il y avait le café qui est fermé. C'est une dame qui a pris ce café, elle a toujours travaillé avec des musiciens comme chez Harabia. Tous les week-ends, elle a la musique là-bas.
Mais elle a arrêté quand?
Bah, ça fait à peu près une dizaine d'années.
C'est parce qu'il n'y avait plus assez de clients ou il n'y avait plus assez de musiciens?
Il y avait assez de policiers qui viennent nous dire c'est interdit de faire la musique.
Elle n'avait pas la licence
ou... Oui, elle n'a pas le droit de faire la musique la nuit. Maintenant, le seul café qui est resté dans Paris, c'est le DJ Club, là où je chantais chez Harabien.
C'était presque tous les bars. Vous savez, tous les bars avant, c'était plein de chanteurs et de chanteuses.
Et c'est triste un peu quand même que tous les bars ferment les uns derrière les autres, non?
Oui, tout est vendu maintenant, tout est vendu. Même si il y en a qui a été détruit, il y en a qui sont fermés maintenant. Il y a plein de bars qui sont fermés, plein. Et ça devient de moins en moins maintenant, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il reste juste ici à Stalingrad un petit peu. Presque c'est fini, tous les bars qui font les chanteuses.
Et il y a moins de clients aussi maintenant?
Moins de clients, et c'est très très calme maintenant. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boulot, et puis ben, voilà. Avant, c'est vrai.
Avant, c'était le vendredi soir, le samedi soir, puis beaucoup le dimanche après-midi. Hein.
Beaucoup le dimanche, et même quand il y a du monde, et c'était bien, même dans la semaine aussi. Hein. Il y a des fois dans la semaine, hein. Avant à l'époque, en 80, 81, 82, c'était même le lundi, mardi, mercredi, tous les jours. Et tous les jours, il y a de l'argent, tous les jours, il y a du monde. Hein. Maintenant, il y a 2 jours par semaine, et c'est très calme, en plus. Pas comme avant. Ouais.
Ici c'est bon, parce que ici, les trains, les métros, c'est comme ça, c'est arrangé avec les voisins, c'est pour ça que je travaille ici, toujours comme ça.
En fait, là, il y a le métro aérien en face, voilà. Il y a le train, les trains juste à côté.
C'est beaucoup de bruit.
Donc on ne dérange personne.
Voilà.
Et en plus, la patronne, elle habite au-dessus. Bardat Memouni.
C'est la flûte le premier. Après, la chanteuse, elle rentre le wizen.
Et c'est difficile de la suivre ou...
Non. Parce que c'est l'habitude. J'ai l'habitude comme ça. Ah oui. Parce que c'est difficile pour le flûteur qui n'a pas de la pratique. Par exemple, un virage dans le chanteuse, le flûte, il déraille. Il déraille la...
par rapport à ce qu'elle
voilà. Ouais. Il déraille avec le tam-tam, avec la chanteuse. Ouais. Comme par exemple, comme la voiture, il déraille traverse la route. C'est comme ça. C'est comme ça.
Ouais, il faut beaucoup de pratique.
Nous, quoi, normalement, les pratiques. Il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de. Excusez-moi, je n'ai pas parlé beaucoup de.
On est deux, trois. Oui. Oui. On est deux habillés en blanc et la troisième, elle est habillée en noir. Oui, c'est vrai.
Mais vous avez des belles robes, hein.
Merci, merci. C'est la tradition. Dès qu'on chante, on est obligé de s'habiller comme ça. On ne peut pas venir en jupe ou en. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment, on est venu pour travailler, habillé comme ça en blanc.
Et vous en avez plusieurs de couleurs
différentes ?
J'en
ai beaucoup. Ouais, ouais. Rose, bleu, noir, toutes les couleurs. Toutes les couleurs. On en a beaucoup.
C'est beau, il y a plein de perles ici.
Oui, plein de perles, plein de trucs. Pour être chic à la chanteuse, il faut être habillé par rapport à la flûte, hein. Shira, ça veut dire la maîtresse. Et Sheba, c'est les élèves. Pour venir travailler, on est obligé de s'habiller comme ça. Et voilà.
Et voilà. La nuit, c'est fatigant, oui, c'est pour ça on est trois. Ils font la chorale et quand je me fatigue, je leur passe le micro, ils vont chanter aussi. Voilà.
C'est très fatigant. Hein. Et plus avec des gens, quand il y a beaucoup de monde le soir, à partir de 2h du matin. Beaucoup de cigarettes, beaucoup de gens. Tout le monde vient. Hein. Il y a des jeunes, des vieux, des Français, des Arabes. C'est mélangé. Hein. Ouais. Et nous, on gagne notre vie juste avec les gens qui viennent nous voir. On n'est pas payé par les patrons, entre rien du tout. Hein. Ce qu'on travaille, les gens qui viennent nous écouter, ils nous donnent un petit peu. Et voilà. Ouais.
Et en fait, c'est l'animateur, là, le Béra, qui fait sortir les billets.
Ils sont obligés de renvoyer un message avec le Béra. Ils disent, voilà, vous dites à madame que, voilà, voilà, ce qu'il a envie de dire, ou ce qu'il a... C'est le Béra qui fait le message.
باقي جبهه الحرمه عند الجعواط السعدي مرفوع بالشده والهمه تبريعه هذه في خاطر كاع لي زافيتي وفي خاطر فوكلور الجيريا صوزم لي الشيخه ربيعه لا غروش شونتيز الفنانه تاع فوكلور وفي خاطر الشيخه شريفه والشيخه خيره في خاطر الشيخ بغداد الكساب الله يطول عمره ما ننسوش الشيخ الروجي عندنا بن قلال وفي خاطر الجماعه تاع بجيه وفي خاطر نعيمه ويحيى عمي الباشي وليداته وفي خاطر الناس اللي يحبوه وفي خاطر راديو فرانس في خاطر كل مون الله يخلي لك.
Comme vous pouvez dire, comme vous pouvez dire, je parle avec les paroles bien. Comment Victor Hugo?
Il regarde la personne et puis il dit des paroles sur lui. Et voilà.
S'il est triste, s'il est gay,
s'il est amoureux, si sa copine elle est partie, il la voit là-bas. Il sort des paroles bien, des bien. La première chanson, c'est pour un copain qui avait son copain, il était en prison.
À Florine-Régis.
J'ai dit qu'il y a des grosses clés, il y a des grosses clés, il y a des portes, beaucoup de portes, il y a de la surveillance, il y a un grand mur. Il se met à côté d'un arbre, il pense à sa famille ou sa mère ou sa femme, il pleure. Je ne chante pas que pour ma copine, je chante pour son enfant. On ne chante pas comme ça. Il faut qu'on... Il y a des trucs qui nous passent par la tête, qu'on les voit et qu'on est... pour faire la chanson. Et moi, quand j'ai fait ça, j'étais jeune. Bon, j'étais jeune parce que j'étais pauvre, j'étais malheureuse, j'étais heureuse comme ça, mais... Ah oui, même l'amour, il te rend malheureux aussi. Hein. Quand tu perds ton ami ou ton mari ou quelqu'un que tu l'aimes, il s'en va, t'es malheureuse aussi. C'est pas le bonheur. Comme le temps. Il fait beau, il fait pas beau, et puis c'est comme ça. La vie, elle est dure aussi, c'est... Oui. 20 ans, j'ai resté à Alger, je crois, 20 ans. Et maintenant, ça fait 20 ou 21 ans que je suis en France. J'ai acheté un bar ici, j'avais de l'argent. Quand j'ai fait l'enregistrement et tout. Bon, j'avais mes enfants qui étaient petits, j'ai arrêté complètement. Hein. Et quand après, bon, j'avais des problèmes. J'ai divorcé avec mon mari. Lui, il est rentré en Algérie. Moi, j'ai resté. Et après, quand maintenant j'ai vendu le bar et tout, j'ai repris. Parce que mon métier, ça m'a fait de la peine d'arrêter. J'ai souffert pendant des années et des années pour faire grandir mes enfants. Et maintenant, alhamdoulilah, je ne me plains pas. Je suis bien. On dirait que j'ai appris. Moi, je n'ai jamais appris. C'est ça que je me demande, pourquoi je l'ai fait, comment j'ai fait. Quand je prends le galop, je le fais, on dirait qu'on m'a appris. Quand je prends le tard, je le fais normal. On dirait que j'ai appris ça dans une école. J'ai appris toute seule, personne ne m'a appris. Je chante comme les médiats, qui chantent, eux je copie et je chante.
Les Médahat sont au départ des chanteuses de chants religieux. Elles chantent en groupe et elles interviennent dans les rituels familiaux, notamment, hein, comme les mariages. Il se trouve que maintenant, dans la réalité, les Médahat ont un répertoire profane, qui est un répertoire de raï. Ce sont des chansons de raï, des chansons à la mode, sur lesquelles les femmes, entre elles, se défoulent, dansent, plaisantent.
Quelqu'un se marie, il y a des invitations. Et moi, tellement que j'aimais ça, je restais jusqu'à la fin. J'écoute. Il y a que des femmes, il y a un groupe de femmes qui chantaient. Ils font le gala toutes seules. Ils font
le gala, c'est la percussion, hein.
Celui qui, oui, qui le fait, ouais, là. Et le tar, ils font toute la nuit ça. Ils ne s'arrêtent pas. Nous, on est fragiles, pas comme avant. Ils étaient solides. Il y avait une voisine. Moi, je rentre chez elle. Je vois deux femmes qui attendent. Elle me disait, elle me pose la question, tu veux venir avec nous? Je dis, où? Elle m'a dit, on va travailler le côté d'Alger, il y a des mariages. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, j'ai entendu que vous savez chanter. Je dis, oui. Et moi, j'ai dit, et après? Elle m'a dit, on va vous donner de l'argent. Je dis, beaucoup? Elle me dit, oui. Et là, je n'ai pas dit à ma mère. Je suis partie. Je dis, ma mère, bon, je vais m'absenter. Ma mère, elle me dit, où tu vas? Parce que j'avais mes frères. Je dis, je vais avec ma copine. Elle sait que je vais chez ma copine et tout. Et je suis partie, et c'était bien. On m'a donné de l'argent. J'ai chanté, on dirait que ça fait longtemps que je suis avec eux. J'avais pas honte. Au départ, j'ai rigolé quand j'ai vu les hommes. Il y avait plein d'hommes dehors. Il y avait les femmes que nous qui ont chanté. Il y avait 4 femmes, et j'étais la 5e. Et il y avait que moi, j'étais la plus jeune, j'avais 16 ans. Alors on m'a présenté, les hommes me disaient, ah, on veut celle-là, la jeune-là, si elle veut chanter. Et moi, je me mis debout, j'étais debout, hein. On m'a bien payé, je ne me rappelle pas comme maintenant, on m'a donné de l'argent. Je me suis absentée un mois, ma mère, elle me cherchait partout. Elle est où celle-là? Et un jour, je viens, l'après-midi, je rentre. Où tu étais? Je dis, j'étais à l'école. Quelle école? Je dis, à l'école où on fait le chant. C'est vrai? Je dis, elle me dit, où se trouve cette école? Je dis, à Alger. Et après, elle a compris. Au bout de 6 mois, je lui dis la vérité. Quand j'ai fait un disque, j'ai fait un petit disque là. Et je lui ai ramené, maman, j'ai fait un disque, hein, je suis chanteuse. Elle me dit, pourquoi tu mens? Tu dis, tu étais à l'école. J'ai dit, oui, j'ai appris à l'école. Après, je chante. Elle m'a dit, ah, je te connais depuis que tu étais petite. Tu aimais ça.
Et ça, elle ne lui posait pas de problème?
Non, elle était contente, au contraire. Oui. On était pauvres. Je lui ai acheté, je lui ramène de l'argent. Elle était contente. En plus, c'est pas méchant. C'est pas, j'ai pas fait quelque chose de... Elle savait que j'étais sérieuse. Je fumais pas, je fais rien du tout de mal. Je chante, normal.
Les chérates interviennent pendant la nuit de noces et du côté de l'assemblée des hommes. À l'extérieur de la ferme, c'est en milieu rural. Vous voyez, c'est des séances où les hommes se détendent, se défoulent, boivent plus ou moins ouvertement, font circuler donc le rouge, comme on dit, et la chanteuse, la chéra, interprète les chants bachiques, érotiques, nostalgiques qu'elle a l'habitude d'interpréter. Donc il y a cette atmosphère, si vous voulez, d'abandon, de sexualité ambiante, qui est au fond assez bien accordée à ce qui se passe à l'intérieur de l'autre côté, puisqu'il s'agit d'une union sexuelle.
Yeah.
خمسة لابا الشيخة ربيعة من عند ولد أختي قال لي في خاطر طول الموند كيسول الله قال لي مغربي تونسي وجزائري في خاطر طول الموند قال لي 50 فرون في خاطر الشيخة ربيعة لا غروس شانتوز وي
Une chanteuse, elle aime d'être chanteuse et elle aime ce métier. Elle est obligée de le faire et elle se cache la pauvre et elle chante. Et comme moi, j'étais amoureuse de mon métier d'être chanteuse, j'aimais bien. Mais je me cachais comme tout le monde, comme toutes les chirates. Mais maintenant, non, ça y est. Ça y est. Il y avait même des disques, ils ne savent pas que c'est moi. J'ai donné à ma mère le disque, elle l'a caché, elle a eu peur de mes frères. Mes frères, j'en avais 4. 4 garçons. Et oui, bon, il y en a 2 qui étaient bien, mais le plus grand, voilà, là, je te dis pas. Ouais. Elle n'a pas voulu leur dire que c'est elle. Et j'ai donné un nom. À l'époque, je me souviens, j'ai dit, sur le disque, c'est marqué, je le cherche bien, ce disque, je ne l'ai pas trouvé. Beria. C'est Beria. Et j'ai donné un nom que je ne suis pas de Relizane. Beria, ça veut dire la charmante. Beria. Ah. Oui, c'est un des musiciens, il m'a dit, bon, il m'a dit, allez, on lance Chicha Beria. Et donc, c'était un disque. Et après, j'ai pris le nom à la Beria directement.
On mettait une photo de jolie fille, plus ou moins en maillot de bain ou pas, enfin, on dénudait un peu, on faisait une pochette érotique qui n'était pas la chanteuse. Non, elle, de ce côté-là, elles avaient conservé... une certaine pudeur, il leur arrive de chanter les textes les plus crus avec une voilette.
Donc, bon, les gens, pour voir le visage de la personne qui chantait, ils donnent beaucoup d'argent. Ils donnent pour que tu l'enlèves. Il faut qu'ils ne te voient pas. Nous, on peut voir les gens, mais les gens, ils ne nous voient pas. Et pour partir, c'était un voile qu'on le met, comme la jellaba, ou bien le voile haïk. Et quand tu as fini, on ramasse tout. On le monte comme ça, on le pose derrière et on met le voile. Et personne ne te voit. Tu es toujours protégé. Et pour voir, les gens, ils tremblent. Comment elle est ? Il faut que je la voie, celle-là.
Mmh. Oui.
Nous, on connaît les gens, mais les gens, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent que la voix. Mais c'était formidable. Moi, je trouve que c'était bien. Oui, c'était bien. Oui. Mais maintenant, c'est la plupart des gens, ils sont civilisés maintenant. Ils n'ont rien à foutre. Elle est chanteuse, ben, tout le monde la voit. Même au bled, hein, même en Algérie. Hein. Mm. Yalil, 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 yalil. Oumadat diya trab min zinin. Oumadat diya trab min zinin. ويا دراج وجوه الحباب وخساراي اي 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 عارفك نكار وما تبغينيش اي 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 عارفك نكار وما تبغينيش ونكويك انت يا قلبي اي 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 J'ai des paroles dans la tête et quand j'ai des paroles, bon, avant, j'ai pas la peine de les enregistrer, mais maintenant, je suis obligée de l'écrire ou de les enregistrer dans un petit poste, comme ça, je l'ai. Et je commence, je fais parole par parole et puis, c'est pas facile. Je fais la chanson et j'attends un petit peu et toujours chez moi, toute seule, comme ça, des fois, je fais pas de ménage ici, je reste comme ça, en train de chercher la musique pour que ça va avec la chanson que j'ai fait. ويا دراج وجوه الحباب وخساراي اي 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 J'ai voulu ce métier, même si je ne me marie pas, j'en ai rien à foutre. parce que j'étais amoureuse de ce métier-là. Et j'aimais chanter, j'avais une belle voix. Et j'étais chanteuse, et je savais que j'étais chanteuse. Et je voulais ce métier aussi. J'ai regardé personne, j'ai pensé à personne. J'ai pensé qu'à moi-même. Ce que je voulais faire, je l'ai fait, c'est tout.
ACR, Atelier de création radiophonique.
Barbès, Stalingrad, Yaraï.
Par Marie-Hélène Bernard. Avec Saïd Dadouche, Zulikha Ghali et sa sœur Haja, Hawari et Mohamed Seba, Kamel Hamadi, Salem Saadawi, Marie Virol, Bardad Mimouni, le Barrah de Bjaya Club et Sheikha Rabia.
Et voilà, on a fait le tour de Barbès.
Ouais.
Tu veux parler avec nous?
Ouais,
je dois voir, c'est bien.
Traduction, Mohamed Zawi. Chansons de Slimane Azem, Noura et Kamel Hamadi, Rabah Diryassa, Salah Saadawi, Sibba, Rine Rai et Sheikha Rabia. Livre de Marie Virol, La chanson Rai, édition Kartala. Groupe de réalisation, Arthur Gerbault, Emmanuel Colchet, Christophe Michaud, François Connac, Cécile Dume, Monique Burguière, Thomas Duterre et Viviane Vandenbroek.
Je dédie cette émission à Viviane Vandenbroek. Elle avait commencé à y travailler et elle aurait dû la terminer.
Cette émission a été diffusée la première fois, le 7 mai 2000, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.